On écoute maintenant Benoît Gariepy, qui est de la ville de Montréal et à la direction des stratégies et transactions immobilières. Et pour ce qui concerne Paris, en fait, c'est un petit peu l'inverse, puisque en termes d'assainissement, c'est plutôt le manque d'eau qui pose problème plutôt que la surabondance. Vous l'avez retrouvé ?
Ouais.
Allez. Merci, Elena.
Bonjour tout le monde. Très content d'être ici. Merci, Elena, de m'avoir recruté. Je vais essayer de relever le défi 10 minutes du mieux que je peux.
Personne n'a réussi, donc vous avez, bon, vous avez toutes vos chances. Sauf ce matin, si les speakers de ce matin ont été très réglo, notamment les anglo-saxons. Bravo les anglo-saxons. Ouais. Nos amis américains ont été très performants de ce point de vue-là.
Alors, brièvement, le plan de la présentation, ça va être une petite mise en contexte pour vous présenter un petit peu la particularité de Montréal. Et le plan de développement durable, vous allez voir, comparé à Chicago, c'est plus nouveau, c'est en voie de réalisation. Donc, on n'a pas encore des cibles qu'on peut dire qui ont été atteintes, mais on va regarder ça. Comment est-ce que les toitures pourraient contribuer à ces orientations-là? Alors, Montréal... Tout le monde doit le savoir, Montréal est une île. C'est un milieu terrestre quand même bien délimité, avec 130 km de rive, 500 km carrés. Alors, on peut dire que c'est un écosystème de 500 km carrés. Il y a 19 arrondissements et 16 villes regroupées. Donc, les frontières que vous voyez en blanc sont toutes ces entités-là qui font partie de Montréal. L'engagement de Montréal, c'est le plan de développement durable qui a été adopté en 2010. C'est un petit peu la volonté de la Ville de Montréal d'intégrer les objectifs de développement durable à ses propres activités et en même temps de peu donner l'exemple en tant que citoyen corporatif. Alors, regardons ces orientations. La première, c'est améliorer la qualité de l'air et réduire les gaz à effet de serre. On espère réduire à 30 % plus bas par rapport au niveau de 1990 d'ici à 2020. Montréal est aussi un très grand propriétaire foncier avec 1281 bâtiments. Juste pour quelques statistiques, on parle d'environ 700 000 mètres carrés d'implantation, donc de toiture, 2 124 925 mètres carrés de superficie en tout. Et puis, donc, c'est pour dire qu'il y a certainement un impact environnemental qu'on peut avoir de la façon qu'on opère nos propres immeubles. Par exemple, une des orientations du plan, c'est que chacune de nos nouvelles constructions de 500 mètres carrés et plus va avoir une certification LEED or et argent. Ça va aussi pour les rénovations de nos bâtiments. On a un programme, on a plusieurs arénas, on a une quarantaine d'arénas en tout. On enlève progressivement, d'ici 10 ans, tous les gaz fluorocarbone. Et on encourage aussi les toits végétalisés. Et avec tout ça, je me dis qu'il doit y avoir moyen de faire des projets de démonstration. Ici, il y en a un assez important, est en construction le nouveau planétarium Rio Tinto. Et puis, il vise la certification LEED Platine. Ici, c'est une autre initiative. Comment est-ce qu'on peut éliminer graduellement le mazout léger pour le chauffage de nos bâtiments? Bon, sur des toits, on commence à installer des unités de préchauffage de l'air. Parfois, ça va être sur des murs aussi, des murs en surplomb sur des toitures. Deuxième orientation, assurer la qualité de vie des milieux résidentiels. Alors, Montréal vise à réduire le solde migratoire de 25 % surtout chez les jeunes Montréalais qui ont tendance à quitter vers la banlieue. Alors, on a de la difficulté à retenir les jeunes familles. Une fois que les jeunes couples ont terminé leurs études, ils décident d'avoir des enfants, ils vont s'installer plutôt en banlieue, en périphérie, que vous voyez dans la couleur plus brune. Il y a un facteur qui décourage de rester à Montréal, c'est que les valeurs foncières augmentent beaucoup. Alors, moi, ce que j'avance, c'est pourquoi ne pas profiter de la typologie des toits de Montréal. Typiquement, Montréal est quand même très habité en son centre, dans ses quartiers, avec des maisons qui ont environ 80 à une centaine d'années et qui ont des toits plats. Alors, les toits plats se prêtent assez bien à des réaménagements pour y implanter des usages ou des toits verts, tout ça. Mais je ne rentrerai pas dans les considérations structurales parce qu'on pourrait parler longtemps de technique à ce niveau-là. Mais pourquoi pas offrir un nouveau paysage aux ménages montréalais et puis redécouvrir, c'est ce que certains ont appelé cette cinquième façade. C'est déjà commencé, il y a des initiatives, les gens là sont de plus en plus à la quête de verdure et de fraîcheur, vont sur leur toit. Autre objectif ou orientation, pratiquer une gestion responsable des ressources. L'idée aussi, c'est la même problématique dans bien des grandes villes, c'est d'améliorer la qualité des eaux de ruissellement et aussi en diminuer le volume. Je vais passer vite là-dessus, mais on a un réseau d'égouts qui est divisé en deux. Du côté ouest, c'est un égout séparatif, c'est-à-dire que les eaux de pluie s'en vont vers le cours d'eau, que ce soit des toits ou de la voirie, et les eaux usées des bâtiments s'en vont vers l'usine d'épuration qui est située du côté est. Du côté est, l'égout est combiné, c'est-à-dire que toute l'eau de pluie est mêlée avec l'eau usée. Donc, dans les deux cas, il y a des défis d'infrastructure avec les changements climatiques. Tout le monde s'en doute, là, avec les grosses pluies. Par exemple, le 30 mai, on a eu une pluie, un événement centenaire de 75 mm environ en 25 minutes. On regarde aussi ce qui se fait ailleurs parce que il y a des plans qui sont, disons, déjà très avancés, comme la ville de New York s'est dotée d'un plan d'infrastructure verte. Is there anybody from New York here? Ah, en tout cas, c'est quand même très inspirant. Et eux, de leur côté, leur plan est très chiffré. Et ce que j'admire, c'est qu'ils font beaucoup de recherches. Et ils s'en vont vers des objectifs qui sont très chiffrés pour diminuer les infrastructures grises. Alors, chaque petite intervention d'infrastructure verte est comptabilisée. Ici, c'est un, je ne sais pas si ça pourrait marcher à Montréal, c'est ce qu'ils appellent un blue roof pour collecter de l'eau dans des bacs sur des toits plats. Alors, on suit ça, on trouve ça intéressant parce qu'il y a beaucoup de similitudes entre New York, Chicago et Montréal au niveau de la typologie des bâtiments et des égouts combinés d'ailleurs. Ici, c'est, disons, une proposition d'un bureau d'architecte pour la construction d'une bibliothèque. C'est purement théorique, mais on essaie de stimuler un petit peu la créativité en tant que donneur d'ouvrage, de récupérer l'eau des toits en partie par une toiture végétalisée, et par des bacs, et d'essayer de, éventuellement, est-ce que ça serait possible de débrancher complètement certaines toitures plates. Au niveau résidentiel unifamilial, des initiatives comme débrancher les gouttières, parce que pour récupérer l'eau pour utiliser dans les petits jardins, c'est aussi une façon de conscientiser la population à la gestion de l'eau de pluie, t'sais, pour que les gens réalisent qu'il y a quand même un coût à gérer de l'eau de pluie. Avant-dernière orientation, améliorer la protection de la biodiversité, des milieux naturels et des espaces verts. Alors, du point de vue de la canopée, on espère la faire passer de 20 à 25 d'ici 2025 avec la plantation de 300 000 arbres. On essaie aussi, on s'est engagé à adapter les outils réglementaires d'aménagement et les critères pour maximiser le verdissement et la lutte aux îlots de chaleur. M. Beaudoin nous en a parlé ce matin. Je voudrais simplement, si vous regardez dans la, est-ce que vous avez un pointeur ici? Non? OK, la portion S qui est vers la pointe en haut de l'écran, on voit que c'est très industrialisé, donc plus chaud. Et puis, comparativement à la portion ouest, en bas à gauche, où il y a quand même moins de densité. Et ça a aussi beaucoup à voir avec la typologie des quartiers et la typologie des bâtiments. Alors, on voit très bien là, que les surfaces minéralisées, c'est dans surtout les secteurs industriels, et je vais en reparler un petit peu plus demain. L'autre façon de contrôler ou enfin mitiger, si on veut, les îlots de chaleur, c'est les toitures à faible émissivité. D'un point de vue énergétique, on n'est pas convaincu à 100% qu'il s'agit d'un gain à cause de notre climat. C'est-à-dire que l'hiver, Mme Van Lack en a parlé, on a en partie des toitures blanches, mais l'hiver, on a aussi intérêt à profiter du rayonnement solaire au point de vue consommation énergétique. Cependant, nous autres, on en est convaincus pour tous nos bâtiments Arena, qu'on opère beaucoup, presque 10 mois par année, certains peut-être plus. Donc, fin du printemps, début de l'été et début de l'automne, fait encore très chaud à Montréal et ça soulage beaucoup les systèmes de réfrigération. Alors, l'engagement, c'est j'en ai parlé, c'est un petit peu de se donner des outils. Une façon aussi pour lutter contre les îlots de chaleur, c'est les toitures végétalisées. On en a dû parler beaucoup aujourd'hui. Et il y a d'ailleurs un projet de règlement pour les toitures végétalisées qui est en confection au moment où on se parle. Ici, un exemple que j'ai eu le plaisir de réaliser, c'était une maison de la culture, une bibliothèque, un site qui était quand même très bien orienté avec une terrasse que vous voyez sur la droite. Malheureusement, très chaud l'été, donc le public n'y allait pas vraiment. Et quelques années, on a décidé, on avait par hasard la capacité portante sur une portion de la toiture. On a fait une toiture végétalisée et vous voyez, il y a même des socles pour recevoir des expositions d'art semi-permanentes. Et on s'en est fait aussi un centre didactique où le public, les 4 jours, les enfants l'été, tout ça, peuvent aller et apprendre c'est quoi un toit vert. On peut aussi partir à la reconquête des structures existantes, comme ici dans le parc linéaire. Ça, c'est dans le Vieux-Port de Montréal. Alors, vous voyez une structure... la structure linéaire qui est là, qui était, j'ai entendu le mot « faisceau ferroviaire » hier, j'ai bien aimé ça, je pense que c'est un faisceau ferroviaire. Et puis, voilà, on la voit là. Et puis, ça avait été, à une certaine époque, pensé que ça pourrait être un parc, mais abandonné pendant plusieurs années. Et ça vient d'être terminé, inauguré cette année, un genre de clin d'œil au Highline de Brooklyn, un parc avec un toit vert. On a parlé pas mal, mon collègue Eric en a parlé. En matière, c'est juste pour dire que la Ville encourage ces initiatives-là, je vais passer vite, on l'a vu ça. et finalement, adopter des bonnes pratiques de développement durable dans les industries, commerces et institutions, les ICI. Alors, il y a une volonté de faire un petit peu avancer la technologie et d'encourager ça à Montréal, pas juste dans ses propres projets, mais pour les industries, commerces qui veulent aller de ce côté-là. De notre côté, on essaie de donner l'exemple. Par exemple, ça, c'est l'usine de filtration Atwater, c'est des grandes galeries de filtres, donc on est en train de déminéraliser. Aussi, l'adoption, c'est-à-dire que ça va prendre un petit peu une souplesse au niveau de la réglementation pour permettre l'intégration de panneaux solaires et d'éoliennes, parce que présentement, dans la réglementation, c'est interdit de mettre des appareils mécaniques en façade, mais il y a moyen d'adapter la réglementation si on veut être conséquent avec notre plan de développement durable. Enfin, les points clés, les défis d'infrastructure m'apparaissent, Sud Montréal m'apparaissent partagés par d'autres métropoles, et les toits des villes sont une des clés pour un petit peu déployer des actions durables. Merci.
Merci Benoît Gariepi.